VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Mali, le cadre djihadiste Souleymane Mohamed Kenen a revendiqué aujourd'hui l'attaque de l'hôtel Biblos à Sévaré, non loin de Mopti, qui a fait 13 morts, dont 5 employés de l'ONU. C'est ce qu'annonce l'AFP. Kenen est proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa et il a fait partie de l'aile malienne des forces de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar quand le nord du Mali était sous le contrôle des groupes djihadistes. Avant cette revendication, les soupçons des enquêteurs maliens se portaient plutôt vers le FLM, le Front de Libération du Massina. L'attaque sanglante de l'hôtel Le Sévaré par les djihadistes a encore intensifié le sentiment d'insécurité de la population malienne. Des précisions avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
L'insécurité au Mali devient de plus en plus le quotidien des citoyens, même si les autorités s'efforcent à dire que des dispositions sont en train d'être prises pour veiller sur des personnes et leurs biens, la population ne cesse de s'interroger. Pour illustration, la prise d'otages déjouée du vendredi en plein jour à l'ancien hôtel Biblos, situé, tenez-vous bien, entre le camp de l'armée de l'air et le QG de la MINUSMA. Cette attaque est la troisième en moins d'une semaine dans le pays après deux assauts qui ont fait 13 morts parmi les militaires, dont deux dans une embuscade vers Nampala dans la région de Ségou le 1er août et 11 autres tués dans un camp de la garde nationale à Gourmararous dans la région de Tombouctou. C'était le 3 août. Ces deux attaques devraient servir de leçon pour une mobilisation et une vigilance plus forte dans tous les pays, surtout dans la région de Mopti, une région où la force pour la libération du Massina ne cesse de dicter sa loi. En témoignent les attaques à répétition de Tenenkou, Diafrabé, Ndjoura, Djenné et l'assassinat du chef de village de Dogo dans le cercle de Yuwaru, sans oublier la profanation du mausolée de Sékou Amadou, fondateur de l'empire théocratique de Massina parmi tant d'autres. Les populations dorment aujourd'hui avec la peur dans le ventre. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
En Guinée, le ministre des Droits de l'Homme, Khalifa Gassama Diaby, a reconnu que 5 officiers en détention sans jugement depuis 4 ans devraient être remis en liberté. Ils avaient été arrêtés après l'attaque du domicile privé du président Alpha Condé le 19 juillet 2011. Les explications de Maître Kpana Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme, joint à Conakry par Idriss Fall.
Ces 5 officiers, il s'agit entre autres du général Noun Cham et du colonel Sadou Diallo et 3 autres officiers de l'armée guinéenne qui coupissent en prison en toute illégalité depuis août 2011 au motif qu'ils seraient mêlés à l'affaire de l'attaque contre le domicile du chef de l'État qui a eu lieu le 19 juillet 2011. Et depuis lors, leur dossier est renvoyé devant le tribunal militaire qui n'existe pas encore dans la pratique en Guinée. Et donc, ils sont détenus en violation de toutes les règles de procédure. C'est pourquoi le samedi, nous avons publié un communiqué de presse, je veux parler de la Ligue guinée des droits de l'homme et de la fraternité des prisons de Guinée, pour demander leur libération immédiate et inconditionnelle, parce que leur détention n'est pas fondée sur le droit.
Apparemment, le ministre des droits de l'homme de Guinée semble vous donner raison.
Oui, absolument, parce que nous avions contacté M. le ministre des droits de l'homme et même son homologue de la justice, qui ont tous reconnu qu'à ce niveau, les personnes en question sont victimes de violations de leurs droits, parce que du moment où le tribunal militaire n'existait pas, du moment d'ailleurs où la peine qu'on pourrait leur infliger est purgée, par exemple, le général Noun Cham 24 fois, parce que s'il est reconnu coupable, c'est la peine d'emprisonnement de 2 mois qu'on pourrait lui appliquer d'après le code pénal guinéen en son article 547 alinéa 1. En ce qui concerne les 4 autres, leur peine d'emprisonnement, le maximum, c'est 6 mois, alors que depuis 2011 jusqu'à nos jours, ils ont fait 48 mois. Donc, nous pensons que leur détention est illégale. C'est pourquoi, effectivement, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a reconnu sur les antennes de certaines radios que, effectivement, leur détention est illégale.
Et vous pensez qu'ils seront relâchés, quand même?
Oui, c'est notre souhait. Et nous estimons que les autorités guinéennes, en tout cas les autorités judiciaires, sont informées officiellement par rapport au cas de ces 5 officiers. Et nous estimons que nous sommes dans un état de droit. Par conséquent, les 5 officiers en question seront mis en liberté immédiatement et sans condition.
Maître Kpana Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme. Burkina Faso, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour annuler la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. L'institution avait été saisie par les partisans du leader déchu après le vote en ce sens par les députés du Parlement intérimaire le 16 juillet dernier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, remaniement ministériel hier soir, le président Denis Sassou Nguesso a exclu du gouvernement deux ministres opposés à un amendement de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat, selon l'AFP. Il s'agit de la ministre du Commerce, Claudine Munari, et de celui de la fonction publique, Guy Brice Parfait-Kolelas. Le gouvernement rwandais se félicite du non-lieu prononcé par la justice britannique dans l'affaire du chef des services de renseignement rwandais, Emmanuel Karenzi Karake, arrêté à Londres en janvier à la demande de la justice espagnole qui le recherche pour la disparition de plusieurs ressortissants espagnols pendant le génocide de 1994 au Rwanda. Le général Karenzi Karake ne sera donc pas extradé en Espagne. Les explications du directeur de la radio-télévision Contact à Kigali, Albert Wouda-Tsimbourwa.
Satisfaction, bien entendu, surtout qui démontre que tout ça est quand même le fruit d'une machination qui serait poursuivie par les gens qui nient le génocide, en fait. Parce qu'il démontre aussi que tout ce cas-là était une façon d'expliquer, de refaire l'histoire, en fait, de ce qui s'est passé au Rwanda, le moment le plus pénible pour la société rwandaise. Oui, le gouvernement est satisfait qu'au moins la justice s'est exprimée clairement là-dessus. Mais en plus de ça, je crois pouvoir dire que les gens aussi, quand même, quelque part, ont senti une certaine frustration des pays africains qui arrive une histoire comme ça. Je crois qu'ici, tout le monde ressent toujours ce manque de respect, quelquefois, pour des institutions.
Albert Wouda Tsimbourwa à Kigali. Ici aux États-Unis, l'état d'urgence est en vigueur à Ferguson, dans l'état du Missouri, où la police a procédé à un certain nombre d'arrestations pendant les manifestations à l'occasion du premier anniversaire de la mort de Michael Brown, un adolescent noir tué par un policier blanc le 9 août 2014. L'état d'urgence a été proclamé lundi après l'inculpation d'un jeune homme de 18 ans, entre autres pour violence contre les forces de l'ordre. Tyrone Harris, un ami proche de Michael Brown, aurait tiré sur un véhicule banalisé de la police dimanche soir, d'où une riposte des policiers qui l'ont grièvement blessé. Selon le chef de la police, John Belmar, l'incident s'est produit peu après un échange de tirs entre deux bandes rivales à Ferguson. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Selon le commissaire Belmar, il s'agissait là des criminels et non pas des protestataires. Les protestataires, ce sont les gens qui sont là-bas parlant de moyens d'obtenir le changement. Tel n'était pas le cas avec ces deux bandes à soutenir le chef de la police du comté de Saint-Louis. Quant au père du blessé, il a dit au Saint-Louis Post-Dispatch que son fils était un ami proche de Michael Brown. Belmar estime que cette violence était un obstacle à un changement positif, ajoutant que la police avait accru sa présence dans le secteur après qu'on a signalé des actes de pillage et de jets de bouteilles près de ses policiers. L'un d'entre eux a été blessé, dit-il, par une brique dimanche soir à Ferguson. Tout en reconnaissant que les émotions sont fortes, le commissaire de police a dit que la communauté se devait d'aller de l'avant et il a demandé de l'aide pour identifier ceux qui sont allés au-delà des protestations pacifiques. Des rassemblements ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment Washington et New York, pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Michael Brown, symbole pour beaucoup de l'impunité consécutive à la mort de jeunes gens noirs non armés abattus par les policiers blancs. Tout a commencé il y a un an en Ferguson, quand le policier Darren Wilson s'est présenté sur les lieux après qu'on a signalé un vol dans une boutique locale. Une confrontation s'en est suivie quand il a rencontré Michael Brown qu'il allait abattre avec 12 balles. Le policier Wilson a été acquitté. Cette tragédie a provoqué un tollé et donné naissance au mouvement Black Lives Matter, la vie de Noir compte. Il y a eu, par la suite, la mort de Walter Scott en Caroline du Sud et de Freddie Gray à Baltimore. Dans ces deux cas, plusieurs policiers ont été inculpés, mais inculpation ne signifie pas condamnation et cela inquiète ceux qui estiment que la police cible le Noir de manière disproportionnée au sein de la population carcérale qui ne cesse de grossir aux États-Unis.
Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute de RDC, le Sénat de la République démocratique du Congo a voté mardi à l'unanimité une loi sur la répartition des sièges nécessaires pour l'organisation d'élections locales contestées prévues en octobre. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.